Ainsi donc, on ne saurait prétendre que Gustave Roux ait été méconnu, du moins en Suisse française. Quand, en 1950, Mermoz réunit ses œuvres dans les deux petits volumes des écrits, une fête rustique, à laquelle put encore assister un aubergeonnois plus desséché, plus élégant que jamais, groupa autour de lui nombre d'amis. De même, l'anniversaire de ses 60, de ses 70 ans, devint, comme spontanément, nécessairement, l'occasion de fêtes de poésie dans le ton le plus juste qui fut. L'amitié, l'admiration, la reconnaissance, chaque fois, trouvèrent à s'y manifester sans emphase. Pour moi, qui ne hais rien tant que les kermesses et congrès poétiques, j'étais heureux et émerveillé qu'un poète presque invisible, qui n'avait jamais élevé la voix dans aucun débat, ni sollicité l'attention de personne, de qui l'œuvre était presque un murmure, avec peu de variété, peu d'éclat, aucune actualité, exerça sur un cercle de plus en plus étendu de lecteurs ce rayonnement profond et doux. Qu'une poésie de dénonciation ou de proclamation puisse agir sur une foule, rien d'étonnant. Dans son tumulte verbal, les facilités passent d'abord inaperçues. Mais que l'aveu, la rêverie, la méditation la plus solitaire rassemble toute une salle dans une communauté d'attention silencieuse, cela m'est apparu alors comme une belle récompense de la gravité, de la réserve et de la patience. L'œuvre que je vais aborder ici, bien que nourrie par le monde paysan, au point qu'on pourrait la croire d'abord soucieuse de recommencer à sa manière les géorgiques, ne prend son sens que par le mouvement de son auteur, errant dans la permanence de ses lieux. Mais, bien que le poète y soit toujours présent, elle n'est que très partiellement ou indirectement confidentielle. Or, quelques pages plus récentes, où un vieillard revient à la maison natale, comme si son regard avait enfin la clarté nécessaire pour la revoir, sa main la fermeté qu'il faut pour la peindre, cette œuvre, par exemple, est muette sur l'enfance. J'aurais pu éviter de pénétrer où elle n'est pas allée. Il m'a semblé pourtant nécessaire, sans franchir les limites de la discrétion, d'en apprendre un peu plus. Les Roux sont bourgeois d'Olon, une bourgade vigneronne de la basse vallée du Rhône, non loin de son embouchure dans le Léman. Famille de pasteurs, de vignerons et de notaires. Le grand-père de Roux était paysan. Après avoir géré nombre de domaines, dont celui d'un comte Zeppelin à Friedrichshafen, d'autres en diverses régions de France, il avait pris à ferme le chalet de Brille, près de Saint-Légier, au-dessus de Vevey. C'est là que Gustave Roux est né, le 20 avril 1897. Avec ma sœur Madeleine, mon aînée de 4 ans, j'ai vécu la plus heureuse des enfances dans cette maison un peu perdue, au centre d'un vaste domaine, en un seul mas, comme on dit, ce qui en faisait une sorte de petit univers clos. Mes parents étaient aidés dans leurs travaux par deux valets et une servante. À la table des repas s'asseyaient parfois, outre les 7 convives habituels, des hôtes en séjour, amis ou parents, mais au gré des circonstances et pour des laps peu prolongés. Deux sœurs de notre père avaient à Saint-Léger une école particulière. C'est là que nous fîmes nos premières armes, ma sœur et moi. Le chemin, du chalet de Brie au village, traversait de grandes étendues de prairies solitaires. C'est sans doute cette promenade quotidienne qui m'a donné le goût de la marche en plaine, avec ses rencontres d'animaux et de fleurs et le visible et sensible déroulement des saisons. Le grand-père maternel, un Coigny de Chantoreau, village du nord du canton, proche celui-là des rives du lac de Neuchâtel, comme si le site paternel et le site maternel figuraient les deux extrémités nord et sud d'une étroite patrie hors desquelles le poète n'a pas voulu se risquer, était venu s'installer à Carouge en 1880. Et c'est en 1908, 3 ans après sa mort, que la famille Roux vint s'établir là, non sans garder quelques nostalgies du grand domaine clos proche de la Veuvaise. Gustave Roux, alors, avait 11 ans. Il ne devait plus jamais changer de résidence. Carouge est à peu près au centre d'une région de collines, de champs et de forêts qu'on appelle le Haut-Jorat, et dont la présence est si forte dans l'œuvre qu'il serait superflu de l'évoquer davantage ici. Vint le temps des études classiques, à Lausanne où le tram emmenait tous les jours, grâce aux sacrifices généreusement consentis par ses parents, le jeune Roux. Le collège donc, avec parmi les maîtres Edmond Gillard, Ernest Ansermet, vers 12 ans les premiers essais poétiques, la fascination exercée par les symbolistes, un autographe d'Henri de Régnier en ferait foi, puis le temps décisif de l'adolescence, quand se creuse soudain la distance entre le poète et les autres, et qu'à la faveur de cette crise se produisent les rencontres, les découvertes qui orientent une existence. C'est comme si l'inconnu, l'essentiel, sous forme de ténèbres ou de lumière, fondait sur l'être en traits de foudre et le divisait jusqu'au fond pour le détruire ou le féconder. Par lambeaux soudain devant ma mémoire presque abolie, le temps où ma vie tâtonnait encore parmi des hommes tout pareils à des anthologies, un corps et une table des matières, tant des langues mortes et des langues vivantes plus mortes que les autres, un désert où le squelette de la poésie luisait sous le soleil des dictionnaires, l'Integer Vitae chanté sur un air de chorale par le vieux maître Ernout, la vocasserie de Ripide, Aristophane et ses danseurs agitant comme un fouet leurs membres de cuir rougis, Lucrèce, fou furieux pour avoir respiré dans les fourrés de l'hélicon, l'arbre à la fleur qui tue. Mais déjà le veilleur d'Eschyle, le museau dans les étoiles, comme un chien, me rendait d'un coup la présence du ciel nocturne, et l'Andromaque de Virgile se faisait un paradis de sa tristesse. Les plus lointains, les plus vagues pressentiments réapparaissent, quand, au-delà des vitres de la sombre salle, où nos 7 têtes sous le sifflement du gaz versaient leur ombre sur les syllabes mortes, un jet de soleil en trompe-l'œil sur de la neige tirait tout près de moi du cœur de l'hiver un faucheur de seigle, la tête dans le ciel, sa dure épaule nue huilée de lumière. Autour de lui déjà le monde s'ordonnait selon le rythme de son souffle. La colline fléchit, remonte, quand s'abaisse et se relève tour à tour la lisse poitrine noire et dorée. Toute la ville abattue comme un château de cartes, si le jeune paysan traverse la rue, un épi de froment à son chapeau. Prescience avant-coureuse, oubliée dès que ressentie, confusément mêlée aux minutes monotones, et ce matin surgit comme une longue chaîne à travers le temps, jusqu'à ses rencontres inouïes, le poussin des funérailles de Phocion, la 8e fugue du clavecin, la phrase de Novalis sur le paradis épars, dans l'univers, le refus de Mansfield devant le désespoir, parce que toute proche derrière le pire, une présence parfaite transparaît. Le reflet de cette présence décelée dans les enchaînements les plus simples de sons, de couleurs, de phrases, de minutes, puis le désespoir dévorant implacablement toutes ces fugitives prophéties. Apparaissent aussi dans ces années cruciales Claudel, par la cantate à trois voix et les cinq grandes odes, Mallarmé, devenu très vite le plus impérieux des modèles, Rimbaud. Et dans le pays même, naturellement, Ramu, dont l'Aimé Pache, paru en 1911, semble justifier tout essai de création locale. Et surtout les étranges poèmes, plus passionnés qu'il n'est permis en pays calviniste, d'un jeune inconnu, Pierre-Louis Mattet.